Bonjour et bienvenue dans l'émission Les tisseuses et les tisseurs du vivant. Cette émission est consacrée aux paysans et aux paysannes, aux artisans et aux artisanes, habitants et habitantes des Vosges, de la plaine aux montagnes. Ils et elles transmettent ou apprennent, se réapproprient des savoir-faire perdus, réinventent les traditions populaires. Ils et elles créent un monde plus juste, en cohésion avec leurs convictions écologiques, en symbiose avec les autres vivants. De leurs mains, ils et elles transforment la matière, tissent des liens entre humains et humaines, plantes et insectes, animaux et minéraux. Les tisseuses et les tisseurs du vivant, des métiers et des savoir-faire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Chloé, éleveuse de chèvres installée à Gézonville dans la plaine des Vosges. Pour le moment du moins, puisqu'elle déménage bientôt à Les Voivres, à proximité de Bain-les-Bains. Sa ferme s'appelle les Pimpis de la Plaine, en référence aux petites boules de peau recouvertes de poils qui pendent sous le cou de certaines chèvres. Elle nous a présenté ses chèvres, affectueuses, même lorsqu'elles tentent de grignoter votre matériel, et nous a fait visiter son laboratoire de transformation. Chloé nous a fait goûter ses délicieux fromages, des cendrés, des frais, des demi-secs, nous a invités à manger une tarte aux chèvres et à déguster un flan chocolat et lait de chèvre pour le dessert. Bonne dégustation, ou plutôt bonne écoute sur RGM.
Vous pouvez rentrer dans la cour par derrière. Ah. Allô? Oui, c'est ça. En fait, on cherchait... Ok, d'accord. Ça marche. Bah, on va devant le 15. Il n'y a pas de souci. À toutes.
Du coup, tout le monde se lâche en permanence. Et je ne vais pas les mettre au bout de tout de suite, parce que je les trouve encore petits. Oh. Sauf que je ne voulais pas, et que leur gentil père, qui est à gauche, s'est lâché et a saillé toutes ses filles.
Ah oui,
oui.
Ah oh là là.
C'est la galère.
Donc je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans. Voilà, moi je viens de Meurthe-et-Moselle à la base et je suis allée à Paris pour une dizaine d'années. J'étais coiffeuse. Et à mes 30 ans, en fait, je me suis demandé si je continuais à Paris ou si je changeais. En fait, j'ai eu un peu un déclic. Donc j'avais rencontré avant Benjamin de la Lau, de la ferme de la Fontenelle, et je lui avais demandé s'il pouvait me montrer ses techniques fromagères, enfin voilà, si je pouvais aller faire du fromage une fois avec lui. Et du coup, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai trouvé une formation en Ardèche au Pradel, qui s'appelle une formation de découverte des métiers de l'agriculture et du paysage. C'est quand on ne sait pas trop... où on en est, on peut faire ça et on va visiter plusieurs fermes qui font plusieurs productions, on fait des stages. Et là, j'ai vraiment été conquise quoi, par les chèvres. Donc là, la question ne se posait plus. Du coup, je suis allée chercher du travail dans une chèvrerie. Je suis arrivée en Savoie, j'avais des amis là-bas. J'avais vraiment envie de travailler en montagne. Voilà, il s'est avéré que la montagne, en fait, c'est vraiment dur hein, pour les... physiquement, moralement, enfin voilà, c'était trop compliqué. Et j'ai voulu m'installer, donc travailler pour moi-même, en fait. Enfin, pour moi-même et pour nourrir, et voilà. Et du coup, vu qu'à la base, j'avais beaucoup d'amis dans les Vosges, j'ai décidé de revenir ici. Et Justine et Gilles, donc les personnes chez qui j'ai mes chèvres actuellement, m'avaient dit « Tu verras, tu finiras par revenir dans les Vosges ». Du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'ici, je commençais déjà à avoir un réseau paysan. Donc, c'était sympa. Je ne démarrais pas de rien. Et puis, il y a eu beaucoup d'entraide au début quand j'ai dit que je voulais m'installer. J'ai eu plein de soutien ici. Enfin, c'était vraiment super.
Eh bien, voilà. Donc ici, c'est un bâtiment qui m'a été mis à disposition par des amis. Parce que voilà, c'était assez compliqué de trouver donc une ferme. Donc, eux, ils venaient d'acheter une maison. Donc, il y avait cette ancienne étable à vaches entravée. Et du coup, ils m'ont proposé de m'installer. Donc, ça, c'était il y a 2 ans. Donc voilà, maintenant j'ai enfin trouvé donc la ferme à acheter au Voivre, avec les terrains également, parce que c'est pareil, ici c'est un peu la... bon, un peu comme partout, mais il y a quand même des secteurs où la pression foncière est plus importante, et c'est vrai qu'ici, notamment parce qu'il y a pas mal de méta, de choses comme ça, donc c'est un peu la course à l'hectare, et évidemment... pour les petits qui s'installent, qui sont pas trop connus et tout ça, c'est pas facile, quoi. Voilà.
Est-ce que t'as combien de chèvres, du coup, là ?
Eh bien, jusque la semaine dernière, j'en avais 24. Et là, je viens d'aller en Savoie pour en racheter 10. Voilà, donc je suis passée à 34 chèvres. J'ai 18 chevrettes, voilà, que j'élève cette année et qui seront mises au bouc dans l'hiver, voilà, donc qui deviendront chèvres cet hiver. J'ai actuellement 2 boucs, puis voilà, je crois qu'on a fait le tour du petit troupeau.
Ok, est-ce que tu veux nous présenter un peu le troupeau?
Oui, alors c'est un troupeau de chèvres alpines chamoisées, en fait, que j'ai acheté chez mon ancien patron en Savoie, là où j'étais en alpage, et... Du coup, c'est un troupeau en super santé. Ils n'ont pas de maladies, dont des maladies qui sont hyper répandues dans les élevages. Du coup, je fais hyper attention de mélanger aucun animal avec les miens pour pouvoir préserver ce côté sanitaire qui est très important à mon sens pour le bien-être animal et puis pour pouvoir nous certifier de... gagner notre vie aussi, puisque tu peux sinon perdre beaucoup en production de lait, donc voilà.
Bonjour les biquettes. Oh. Elles sont hyper sociables, ces chèvres.
Ouais, c'est trop marrant. Je passe beaucoup de temps avec elles,
ouais,
gratouillées.
Que...
Moi, les chèvres, c'est quand même hyper sociable. Mais moi, je peux pas m'empêcher. Je sais que.
Le
problème, c'est que des fois, elles n'écoutent plus rien après. Hein. Mais bon. Alors, 31-00, ça, c'est Urvashi. Voilà, sa mère, c'est Parvati. Voilà, donc c'est sur le thème de l'Inde et des dieux et déesses grecques. Donc c'est Urvashi. Voilà, ça c'est Unakit, c'est la fille de Ruby, donc c'est le thème des pierres. Voilà, donc Unakit c'est une pierre.
Je me fais brouter le derrière.
Ça c'est Uta, la noire. C'est la fille de neige. Voilà, donc c'est sur le thème des montagnes. Voilà, et sa mère, une de ses sœurs, c'est Tarentaise, de l'année dernière. Voilà, on est toujours sur le thème des montagnes. Ça, c'est Ukulélé, c'est la fille de reggae. Voilà, sur le thème de la musique. C'est...
Tu les nommes par génération, par...
Eh bien, tous les ans, en fait, aïe. C'est comme la plupart des animaux. Il y a une lettre par année. Aïe, tu me croques les doigts. Voilà, il y a... Et puis, moi, du coup, j'ai gardé les thèmes que mon ancien patron donnait pour se souvenir des lignées, pour pouvoir savoir un peu où t'en es. Et voilà, pour conserver... de la génétique dans le troupeau. Après, tu sais que tu veux faire des croisements pour améliorer certaines choses. Voilà, c'est plus facile que de faire un peu au petit bonheur la chance. Donc, les thèmes étaient déjà bien existants. Il y a le thème des oiseaux, le thème de la montagne, le thème des rivières, le thème de la musique. Mais voilà. Et du coup, en fonction de ça, après, donc, l'année arrive avec une certaine lettre. Et du coup, je choisis les noms, parfois déjà un peu en avance. Et puis après, j'attends de voir la chèvre aussi, à voir si ça lui va bien. L'année dernière, j'ai eu une petite techno qui était complètement survoltée. Et du coup, je trouvais que ça lui allait hyper bien.
Et donc là, c'est des chevrettes de cette année ?
Ouais. Qui sont nées entre mars et avril pour les plus jeunes. Voilà, donc... Et du coup, elles verront le bouc pour la première fois cet hiver.
Elle mange mon pantalon.
Et ça a tendance à un petit peu tout manger.
C'est Satin, elle.
Elle, justement, on pourra réfléchir. Parce que pour l'instant, c'est la fille de Pau.
Pau.
La ville de Pau.
Non, Pau, P-O. Okay. Comme les Télétobies. Okay. Et du coup, c'est Ursula. Comme dans la petite sirène.
Ah non, mon fil.
Ah oui, un pire.
Oui, j'ai le sentiment.
C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, ça.
Elles adorent. Et puis elles sont hyper curieuses.
Ah, les filles. Du coup, tu viens souvent les voir, leur faire des papouilles.
Oui, tous les soirs, souvent on prend... Après la journée de travail, voilà, c'est ce qui détend un peu. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc voilà, je passe toujours 5 minutes. C'est aussi comme ça que tu vois si elles vont bien, si tout se passe bien. Si tu passes du temps avec, tu connais après chaque caractère et du coup, tu vois plus vite quand ça va pas parce que tu... Une chef qui, d'habitude, se lève en première, qui reste couchée peut-être 10 minutes, et ben, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. Du coup, je fais tout à la main. Donc, c'est quand même hyper fatigant et hyper usant. Par exemple, on a vidé le fumier là, avec une amie il y a 2 jours. Ben voilà, du coup, je suis encore bloquée. Mais non, mais l'année prochaine, du coup, avec la ferme que j'ai repris sur la commune de Lévoivre, il y a justement du matériel également, un tracteur, tout ce qu'il faut aussi pour faire les foins. Donc voilà, ça va me faciliter la vie et surtout, ça va développer mon indépendance et mon autonomie. Voilà. Et ça, c'est hyper important pour moi de ne plus dépendre de qui que ce soit et de pouvoir faire comme je veux, quand je veux. Voilà, à peu près quoi.
Tu veux aussi parler?
C'est une acquite. Une acquite est très sociable. En fait, vu que quand elle est née, c'était la seule qui était plus foncée que les autres, et ben, c'était un peu la chouchou. Alors du coup, ben, maintenant, c'est le pot de colle.
Donc là, c'est des chèvres que tu as récupérées dimanche dernier.
Exactement, en Savoie, à Granier, c'est près de M-la-Plagne. Voilà. C'est là où j'ai appris à faire les fromages et puis. C'est la première ferme Caprine où j'ai travaillé, en fait. J'étais allée dans un magasin, j'ai trouvé l'adresse sur un fromage. J'ai dit que je vais aller là-bas. Et du coup, je suis allée et j'ai vu les chèvres là, c'était magnifique. Ils s'en occupaient hyper bien et voilà. Il était hyper pointu en élevage. Donc j'ai vraiment appris beaucoup. C'était super. Voilà, puis après, en revenant, j'ai préféré me dire que j'aimerais m'installer. Donc du coup, je suis retournée à Mirecourt faire un BPREA, ce qui n'était pas simple. Une fois qu'on travaille depuis des années, retourner sur les bancs de l'école, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est fait.
C'était quoi comme BPREA à Mirecourt?
Eh bien, BPREA, c'est le brevet professionnel responsable d'exploitants agricoles, il me semble, pour l'acronyme. Donc voilà, c'est ce qui nous apprend à être chef d'exploitation, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, ça nous apprend tout le côté communication, comptabilité, tous les côtés qu'on aime le moins, en fait. Un peu rébarbatif, mais qui sont hyper importants si on veut pérenniser notre ferme.
Et là, les chefs, du coup, tu les as récupérés pour quelle raison? Tu voulais agrandir ton troupeau ou...
Oui, parce que pour être rentable, il faut au minimum 40 chèvres. Donc bah là, c'est sûr qu'avec 24, c'était un peu compliqué. L'année d'avant, j'en avais 10. Donc voilà, petit à petit, je voulais pas commencer tout de suite avec 40 chèvres. Déjà pour être sûr de pouvoir tout commercialiser. Et puis moi aussi, me tester un peu. Toujours la même philosophie de ne pas avoir les choses trop grandes dès le début et de. Après, voilà, c'est sûr, c'est plus difficile parce que. On n'a pas du tout de moyens hein, quand c'est comme ça, mais au moins on sait où on va.
Et donc là, c'est une race particulière, une. Je sais pas
c'est
comment
la même
on
race.
Dit,
ouais. C'est la même race. Pour l'instant, j'ai qu'une seule race de chèvres. Après, voilà, j'aimerais peut-être essayer de faire des croisements pour améliorer la qualité du lait. Parce que le lait de chèvre, en fait, a une spécificité, c'est qu'il a moins de matière grasse que les autres laits. Et je vois pour certains types de production que je fais, dont les yaourts et les desserts, là, on est en fin de lactation, donc le lait est plus gras et je vois que c'est nettement meilleur. Donc voilà, peut-être croiser avec des races qui apporteraient plus de matière grasse pour... enrichir un peu le lait. Je pense que les gens qui achètent du lait de chèvre, vraiment, ils cherchent cette spécificité-là, parce que chaque protéine de lait est différente et il me semble qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes aux protéines de lait de vache. Donc voilà, c'est bien. Et je trouve que ça fait, il y a un côté un peu trompeur aussi parfois sur ces choses-là. On ne sait pas vraiment quel lait. Enfin voilà. Je pense que c'est bien de garder une ligne
100% chèvre.
100% chèvre. Et elle, alors vu la tête qu'elle a, je pense savoir de quelle lignée elle descend. Et c'est incroyable parce que même au niveau des caractères, il y a les jeux. Sa mère, je pense que c'était romance et du coup, c'est des pots de colle incroyables. Hein ? Toute la famille.
Et tu sais si elles se reconnaissent ou pas ? Enfin, justement, si tu les appelles.
Je pense pas. Ah, quand je les appelle ? Ah si, oui. Après, les jeunes, peut-être un peu moins. Mais là, j'ai ma petite mamie, Neige, qui a bientôt 9 ans. Et elle, du coup, elle est un peu plus calme que les autres. Donc maintenant... Elle se couche assez régulièrement pour se reposer et je vois bien, dès que je lui donne son nom, je vois les oreilles qui bougent, les cornes qui s'agitent. Et du coup, elle vient, je l'appelle et elle vient. Ouais, elles se reconnaissent bien quand on les appelle souvent et qu'on passe, c'est toujours pareil, si on passe du temps avec et qu'on s'en occupe, je pense qu'il y a un peu plus d'échanges.
Et toi, du coup, pourquoi les chèvres et pas un autre animal ?
Eh bien, donc déjà, les brebis, c'était pas vraiment mon truc. Les chèvres, en fait, j'adore leur caractère. Alors, il y a les jours, évidemment, je vais dire qu'elles me fatiguent, parce que c'est un animal très fourbe, très malin. Mais c'est aussi un animal très speed, et moi, je tiens pas en place. Alors, du coup, même les vaches, par exemple, j'ai fait la traite chez des amis. Et je trouvais ça hyper lent. Voilà, moi j'ai besoin que ça dépote et que ça envoie un peu. Donc avec les chèvres, on s'ennuie pas. Alors c'est sûr que quand on est fatigué, on aimerait peut-être des animaux un peu plus posés. Mais la majorité du temps, quand même, c'est assez agréable d'avoir des animaux aussi malins et aussi drôles.
Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons ? Monsieur, à la bergère, qui se les achetions ? Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront ? Ah, dis-moi donc, bergère, comment me parle-t-on ? Monsieur, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons. Oh, dis-moi donc, bergère, mais que s'est-il passé ? Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Ah, dis-moi donc, bergère, tu as de bien beaux yeux. Vous parlez de mon derrière, je le sais bien, monsieur. Mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux. Bergère, allons, bergère, tu n'y es pas du tout. Moi, je voulais te faire un brin de cour, c'est tout. Enfin, voilà des manières, votre cour, je m'en fous. Dis-moi, dis-moi, bergère, pour qui te prends-tu donc ? Soit dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long. Tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins. Tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Ah non, vraiment, bergère, à bien te regarder. Vraiment, tu exagères de tant me résister. Tu devrais être fière que je t'ai remarqué. Monsieur, dit la bergère, ne faites pas rigoler ce que votre grand-père vous a pas expliqué. C'est que je les préfère un peu mieux baraquer. Et la poêle à bergère, le soleil dans les yeux. N'en déplaise à monsieur votre père, vous n'êtes pas terrible mon vieux. Suffit pas que le coq chante pour qu'on vienne en gloussant. Pour en trouver de plus causantes, faudra changer votre compliment. Tu te trompes bergère, j'ai une fiancée qui a d'autres manières et qui sera comblée. Parce que je vais lui faire le 10 du mois de mai. Je sais, dit la bergère, elle est pas mal du tout. Et puis elle est pas fière, elle s'amuse sans vous. Avec mon petit frère dans
en ce moment, par exemple, nous sommes à la période des chaleurs, donc voilà, qui sont terminées pour les chèvres. Les chevrettes sont en plein dedans. En fait, les chaleurs, normalement, sont déclenchées à l'automne quand il y a moins de lumière, donc quand les jours raccourcissent et quand les températures diminuent. Donc évidemment, cette année, avec ces super températures qu'on a eues, j'ai un mois de retard sur les chaleurs habituelles. L'année dernière, j'avais déjà 2 semaines de retard comparé à avant. Et cette année, on a encore 2 semaines supplémentaires. Donc voilà, là après, les chèvres sont en lactation durant l'année. Donc moi, sur lactation classique, j'entends par là qu'il y a maintenant des systèmes comme la lactation longue qui permettent de faire durer la lactation de la chèvre. Au lieu de faire ça sur 10 mois, ils le font sur parfois 1 an et demi. Ce qui permet de préserver la chèvre. Elle ne fait qu'un chevreau, en fait, tous les 1 an et demi. Et du coup, c'est ce qui les fatigue le plus, la gestation. Donc, on a également du lait toute l'année. Donc, pour les fêtes, les gens aiment bien avoir du fromage de chèvre. Voilà, parce qu'avant, il y a quand même beaucoup de personnes qui avaient du lait toute l'année, mais avec des méthodes voilà, qui ne me correspondent moi pas trop, avec des hormones ou des implants injectés dans le cerveau, enfin des trucs absolument abominables pour essayer de toujours contrôler. Voilà, l'humain est génial pour ça. Contrôler comme on veut, ce qu'on veut. Et donc après ça, elles sont en chaleur, donc le bouc va les saillir. La gestation dure 5 mois et 5 jours. Donc elles mettent bas au mois de mars, avril maintenant. Avant c'était plutôt février, mars, avril. Et puis la lactation donc débute. 2 mois après les mises bas, on atteint le pic de lactation. Donc c'est là où on a beaucoup de lait normalement, beaucoup plus. Jusqu'à après ça redescend et on a une certaine stabilité. Voilà, moi après je les taris mi-novembre. Voilà, pour qu'elles puissent se reposer pour leur gestation. Ça leur laisse presque 3 mois de repos. De manière générale, souvent, c'est plutôt 2 mois dans les élevages. Voilà, j'estime que c'est un peu court.
Est-ce que tu peux expliquer du coup ce que c'est le tarissement ?
Eh bien, le tarissement, c'est le fait simplement d'arrêter de traire. C'est comme une source tarie, en fait, voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquide, donc du coup, là, il n'y a plus de lait, on arrête de traire et du coup, le lait s'arrête de couler. Donc pour l'alimentation, moi, je suis très axée sur une alimentation assez simple, c'est-à-dire du foin, de l'herbe. Et, mais voilà, en fait, pas oublier que la chèvre est un ruminant, ils sont faits pour ruminer. Donc, je donne des céréales, mais en très faible quantité. Je donne pas de granulés, parce qu'en fait, les granulés, ça dépense une énergie folle à faire. Donc, voilà, je préfère donner des aliments bruts. Les chèvres, en fait, mangent les grains entiers. Elles les croquent. Et voilà. Je trouve que c'est hyper important, parce que déjà, j'ai lu beaucoup d'articles. En fait, j'essaie de beaucoup me documenter sur l'alimentation, ce que ça engendre, en fait, sur la qualité du lait. Et je suis tombée sur un rapport. Alors, je ne saurais plus vous dire de qui, il faudrait rechercher. Mais voilà, en tout cas, tous les aliments qu'on peut donner maintenant au chef, enrubanage, ensilage, tous ces aliments fermentés, en fait, vont faire que la qualité du lait va changer. Donc, les oméga dans le lait vont changer. Et du coup, c'est ce qui fait que le lait est parfois moins bon pour la santé et va développer des maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc voilà, je pense que tous les gens disant qu'ils sont intolérants au lait de vache, par exemple, c'est notamment à cause de problèmes comme ça. C'est parce qu'en élevage bovin, souvent, on donne beaucoup plus d'aliments fermentés. Alors évidemment, il y a des fermes où ce n'est pas le cas. J'ai des amis à Relanges qui ont une ferme avec le même système alimentaire que le mien. Et ils ont des fromages et du lait de vraiment très bonne qualité. Alors moi je donne du foin, première coupe, du regain, deuxième ou troisième coupe, et je donne de l'orge essentiellement et de l'avoine avant les chaleurs, parce que vu que c'est un peu un aliment qui va exciter en fait les animaux, qui les met un peu sous tension, disons que ça peut déclencher plus facilement les chaleurs. Donc voilà, je fais un petit mélange orge et avoine.
L'avoine, c'est aphrodisiaque.
En gros. Je sais pas si c'est aphrodisiaque, mais en tout cas, voilà, ça énerve un peu.
Et comment t'as appris tout ça? Est-ce que tu t'es renseignée par des ouvrages? Est-ce que c'est de l'observation?
Eh bien, moi, je suis plutôt pour me renseigner. Enfin, j'aime bien plutôt observer les techniques des autres éleveurs. Voilà, j'ai un peu du mal à me dire quand on sait si on lit dans les livres. Enfin, je les lis un livre, ça reste un livre. C'est pas un travail de terrain, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a rien de tel que d'observer, d'aller voir dans d'autres fermes ce qui se passe. Voilà, après, il y a toujours du pour et du contre. Hein. Moi, j'ai visité des fermes très loin de mon système. Après, voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, après, il faut prendre ou laisser, quoi. Mais c'est bien pour pouvoir comparer, au moins de se dire que ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire et pas. Voilà.
Et du coup, tu as fait du woofing ou tu as fait des stages dans d'autres fermes? Comment ça s'est passé pour toi d'aller dans d'autres fermes?
Eh bien, j'ai fait du woofing, mais l'endroit où j'ai fait du woofing, il n'y avait pas de chèvres du tout. Après, j'ai fait des stages donc en Ardèche et beaucoup en montagne, puisqu'à la base, c'est là-bas que je voulais m'installer. Hein, donc, Savoie, Haute-Savoie. Voilà. Souvent dans des élevages mixtes, d'ailleurs. Là-bas, il y a très peu d'élevages que de chèvres. Enfin, il y en a, mais il y en a beaucoup aussi qui sont en mix, donc qui ont des vaches, et du coup c'est hyper intéressant d'avoir les deux côte à côte pour aussi l'un enfin un peu inspirer l'autre ou inversement.
Et du coup t'as appris finalement ou en tout cas t'as observé plutôt des élevages de montagne, c'est quoi les similarités ou les différences avec du coup on est dans la plaine des Vosges plutôt?
Oui. Alors, ce qui change pour ma part beaucoup, c'est pour le pâturage. Parce qu'en fait, en montagne, c'est très difficile, par contre, c'est physiquement de parquer et tout ça là-bas. Mais par contre, pour les animaux, ils ont toujours accès à une herbe hyper jeune, parce qu'on suit la pousse de l'herbe. Donc, les animaux sont en super état. Et vu que là-bas, aussi, ils mangent beaucoup plus en l'air qu'au sol, la chèvre, qui est un animal très sensible au parasitisme, en fait, on retrouve beaucoup moins de problèmes de parasites. Et puis, au niveau de la qualité du lait, clairement, les prairies de montagne, on voit bien, il y a des milliers de fleurs différentes. C'est incroyable. Et quand on voit ici dans nos plaines, je pense qu'on a un peu... tout ça, c'est un peu passé à la trappe, quoi. Voilà. Donc je vais retrouver plutôt ça, je pense, à Les Voivres, parce que j'y suis allée au printemps, et c'était déjà un peu plus comme ça. Je pense que dès que en fait, le terrain est un peu plus accidenté, en fait, c'est plutôt un avantage, comme ça, ils n'ont pas pu y aller pour tout saccager avec leurs produits et leurs grosses machines.
Thank you.
Donc c'est un fromage de chèvre, évidemment, cendré avec de la cendre de bois de hêtre. C'est la seule cendre comestible. Voilà. Ça, c'est un frais que j'aromatise avec des épices, un mélange que j'achète. Bio, évidemment. Poivron, graines de moutarde, poivre. Et ça, c'est un mi-sec, comme tu aimes, là. J'en ai un autre, mon lin, du coup, je n'en avais plus. C'est les palais vosgiens, donc c'est exactement le même. Et il devient comme ça. Mais vu qu'il est plus plat, il devient plus crémeux. Et en fait, celui-ci, c'est un futur palais vosgien. Mais pour les cendrés, je les garde plutôt un peu frais. Les gens aiment bien quand c'est... Il a une semaine, souvent, d'affinage. Bon, là, du coup, il en a peut-être deux maintenant. Mais la cendre fait que ça, le fromage se conserve hyper bien. J'ai déjà remarqué, entre un palais vosgien sur lequel je ne mets pas de cendre et celui-ci, il s'appelle le galibot. Parce que le galibot, c'était les anciens manœuvres dans les mines de charbon. Donc, du coup, vu qu'il était noir, et voilà. Et du coup, je vois qu'il se conserve mieux que les autres. Donc, peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est la cendre. Ils utilisaient la cendre comme conservateur. Du coup, vous les goûtez ?
Oui.
Mélodie ?
Oui.
Tu veux lequel ?
Tous.
On commence par le cendré. Yola ?
Oui.
Cendré aussi ? Palais vosgien, c'est le nom que je leur donne. Je leur trouve tous des petits noms. Ça, les petits, là, je les appelle les chionis. C'est du patois. Ça veut dire le petit dernier de la famille, le préféré. Voilà, j'avais un dictionnaire de patois et du coup, j'essaie de faire des recherches. Au début, je voulais tous leur donner des noms patois, mais c'était pas facile. Je trouvais pas.
Le patois vosgien, du coup.
Ouais.
Ok. Et pourquoi ? Enfin, c'est le lien, alors tout
ça. Ouais, je suis assez attachée au fait qu'il y ait des traditions et des choses, parce que sinon, on finira par tout perdre, et je trouve ça dommage. J'aime beaucoup aller dans une région, entendre des accents différents, entendre des mots différents. Je trouve ça riche. Alors voilà, donc nous sommes donc dans ma fromagerie, qui est un ancien container frigo que j'ai récupéré. Ce sont des amis paysans qui me l'ont vendu pour m'aider et me faciliter un peu le début de la fromagerie plutôt que de construire tout un labo. C'était assez facile. Donc j'ai vraiment l'essentiel, hein, une table d'égouttage pour faire égoutter les fromages, une chambre froide, un énorme réfrigérateur et ici, là, c'est une cave d'affinage. Voilà, donc ça, je ne l'avais pas l'année dernière. Mais pour les lactiques, c'est vrai que c'est super. Ça permet de vraiment bien les faire évoluer dans le temps parce qu'on contrôle à la fois la température et l'hygrométrie.
Donc là, tu as différents types d'affinage en fonction...
Oui, pour l'instant, en fait, cette année, je fais notamment des lactiques. Voilà, parce que j'ai pas assez de place pour faire des tomes. En Savoie, je faisais que ça. Et c'est vrai que c'est plutôt des techniques que je préfère. Il y a un peu plus de travail, c'est un peu plus complexe. Lactique, c'est plutôt assez simple au final. Voilà, mais j'ai également développé, voilà, donc j'ai fait goûter aux amis, famille. Donc c'est quelque chose que je développerai donc l'année prochaine. Des desserts, donc des flans, caramel, qui était la recette de ma grand-mère et qui fait un succès fou. Et chocolat, vanille, enfin voilà. Plutôt axé donc sur les desserts et je me rends compte que les gens sont beaucoup plus sucrés au final que fromage. Même dans les magasins, ils sont plus intéressés par prendre des desserts que des fromages. En fait, en fromage de chèvre, peut-être que aussi la région commence à être un petit peu saturée. Donc du coup, voilà.
Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les lactiques oui. En comparaison des tomes ?
Alors les lactiques, c'est une gamme de fromages qui ne nécessite pas de chauffer le lait. En fait, on a le lait cru qui doit être entre 18 et 22 degrés dans lequel on ensemence. Alors moi, j'ensemence tout avec mon propre petit lait. Je n'utilise pas de ferment du commerce parce que je trouve que la typicité est meilleure parce qu'en fait, il y a plus de bactéries dedans, de bonnes bactéries, j'entends. Et du coup, il y a vraiment notre propre typicité. Donc je trouve ça plus intéressant. Après, c'est beaucoup plus instable, donc c'est parfois compliqué à gérer au niveau des changements de saison avec les changements d'alimentation parce que tout se ressent tout de suite vu que c'est pas quelque chose de très défini, enfin tout, c'est beaucoup plus évolutif. Voilà, et du coup on met le petit lait pour ensemencer, pour apporter vraiment des bonnes bactéries, et ensuite on met de la présure. Donc la présure, c'est une enzyme qu'on va retrouver dans la caillette des ruminants, donc des veaux, des chevreaux, des agneaux, et qui permet en fait de faire cailler le lait. eux, ça les aide à le digérer. Et nous, bah, du coup, on le fait cailler pour avoir nos fromages. Donc notre flan, après, qu'on va mouler dans différentes formes de faisselle. Et voilà, pour avoir différents fromages en fonction de leur égouttage, de leur forme, en fait, ils n'auront ni le même goût, ni la même texture.
Du coup, tu utilises quoi comme caillette ?
Eh bien, actuellement, j'ai de la caillette de veau. Parce que la caillette de chevreau, il n'y a qu'un type de dosage et qui n'est pas assez élevé pour moi et du coup qui prend plus longtemps. Et vu qu'il est plus bas, on est obligé d'en mettre plus et ça apporte une certaine amertume au fromage. Voilà. Donc je préfère utiliser celle de veau, même si c'est moins cohérent, mais au moins il n'y a pas ce côté amer du fromage. Vous en voulez un peu ?
Oui.
Alors lequel ? Je me plaignais de beaucoup de choses qui se passaient mal et tout ça dans la société. Et je pense qu'en fait, tout vient de l'alimentation. Du coup, c'était aussi un moyen pour moi de m'engager et d'essayer de faire un peu changer les choses. C'est peut-être hyper utopiste, hein, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait vraiment régler plein de choses à partir de la consommation des gens. Leur façon de consommer, leur façon de manger. Et du coup, ça changerait la production, la méthode de produire et tout ça. Mes parents sont deux citadins, voilà, mais on venait à la campagne quand même tous les week-ends. Et l'été, on venait passer un mois ici aussi, donc j'allais déjà traire les vaches, j'aimais bien. J'en pouvais plus de la ville, je restais parce que pour des mauvaises raisons. On me dirait que oui, bah, c'était peut-être plus facile à la ville, que j'étais bien payée, que voilà. En fait, ça fait pas tout au bout d'un moment. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé les milieux ruraux et... J'étais partie à Paris pour faire la coiffure parce que j'adorais faire la coiffure et que je voulais pas en faire ailleurs parce que là-bas il y a quand même tout un côté artistique et enfin c'est pas le même métier que coiffeur en campagne quoi. Et à partir du moment où j'en ai eu marre de faire ce métier, bah forcément vu que l'un allait avec l'autre, bah, c'était logique que je parte de là-bas.
À moi Forban, que m'importe la gloire, les joies du monde et qu'importe la mort. Sur l'océan, j'ai porté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul désir que j'ai su conquérir. C'est sur les flots que j'ai passé mon enfance, c'est sur les flots qu'un Forban doit mourir. Vin qui pétille, femme gentille, sous tes baisers brûlants d'amour, plaisir, bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je tue tour à tour. Peut-être qu'au mât d'une barque étrangère, mon corps un jour servira d'étendard, et tout mon sang rougira la galère, aujourd'hui fête et demain le bazar. Allons esclaves, allons debout mon brave, buvons la vie et le vin à grand pot. Aujourd'hui fête et puis demain peut-être, ma tête ira s'engloutir dans les flots. Vin qui pétille, femme gentille, sous tes baisers brûlants d'amour, plaisir, bataille, vive la canaille, je bois, je chante et je tue tour à tour. Qu'un jour, par un coup de fortune, je capturerai l'or d'un beau galion. Riche à pouvoir vous acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. La respecter tout comme un gentilhomme, moi qui ne fus qu'un Forban, qu'un bandit. Je pourrais comme le fils d'un roi tout comme, mourir peut-être dedans un grand lit. Pas qui pétille, pas de gentil. Tes baisers brûlants d'amour, plaisir, bataille, vive la canaille. Je bois, je chante et je tue tour à tour. Je bois, je chante et je tue tour à tour.
voulais te poser la question de... Enfin, comment toi, tu te considères... Est-ce que tu te considères paysanne, éleveuse? Comment tu te présentes
Paysanne, souvent, en premier.
Mais j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que c'était pas estimé. On m'a demandé ce que je faisais dans la vie pour remplir. J'ai dit paysanne et ils ne trouvaient pas dans les... Voilà, donc ça m'a fait sourire. Mais voilà, éleveuse aussi, fromagère aussi. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant avec ce métier, c'est qu'on a plein de casquettes différentes. Donc on ne s'ennuie pas et on apprend tout le temps plein de choses sur plein de terrains différents. La paysannerie, eh ben, pour moi, c'est le fait de nourrir sainement et d'avoir des valeurs qui défendent et qui les placent de chacun. Enfin, la femme, comme on l'a vu tout à l'heure, ou qui prennent soin de la planète. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses comme ça. C'est plusieurs idées, il n'y a pas qu'une seule chose. Enfin, c'est le fait d'être... Puis je trouve qu'il y a une notion d'engagement aussi dans la paysannerie. Plus qu'être agriculteur, et juste, il y a vraiment quelque chose où on a envie de combattre quelque chose et puis d'aller en avant. Et j'ai un abattoir qui est un peu moins d'une heure de route. Voilà, donc moi j'ai fait le choix de les élever moi-même, de les nourrir et de vendre la viande. Voilà, j'avais pas envie de les envoyer à des milliers de kilomètres, de les stresser dans des transports, et ni de les envoyer dans des centres d'allotement, là où ils sont je ne sais pas combien de milliers, et puis traités avec des numéros. Voilà. Donc je propose la viande sous forme de caissette. D'ailleurs, cette année, c'était plutôt une réussite, parce que j'en ai très peu parlé, et tout était réservé en amont. Et je pense qu'il faut... Il va falloir communiquer là-dessus, en fait, qu'on ne peut pas manger de fromage sans viande ou c'est pas compatible. Alors, moi, je suis d'accord pour aussi en faire moins, comme avec la lactation longue, de faire moins de cabris, parce qu'en effet, c'est faire naître des animaux pour les tuer. Enfin, c'est quand même c'est la base de l'élevage, mais pour le fromage, je veux dire, on peut peut-être faire sans. Donc, c'est sûr. Après, en faire moins, pas chaque année. Et ça peut être intéressant de développer des nouveaux itinéraires techniques, en tout cas, pour... éviter de tuer plein d'animaux pour rien, même si c'est pour nourrir, on est d'accord. Mais... Voilà.
Et comment tu vis, toi, du coup, le cycle vie-mort-vie
C'est pas facile. Ouais, non, j'ai... Voilà, à chaque fois que je suis à l'abattoir, je suis repartie en pleurant. Hein. De toute façon, c'est pas évident. On les voit naître, on les élève. Après, voilà, il faut se dire que ça fait aussi partie du boulot. Après, je me suis toujours dit que si un jour j'arrêtais l'agriculture, ce serait certainement à cause de ça. Voilà. J'avais sous-estimé ce rapport à la mort avant de commencer. Tant qu'on n'y est pas confronté avec ses propres animaux, je pense qu'on peut pas se rendre compte. Mais c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Et ben, en plus, oui, alors moi, je pense que j'ai mon rapport... Je pense que tous les éleveurs ne sont pas comme ça. Moi, c'est vrai que peut-être je suis trop proche de mes animaux. Du coup, je pense que c'est autrement plus difficile, forcément. Donc, j'ai du mal de mettre une barrière. Après, comme tous les animaux que j'ai, comme mon chien, comme moi, j'ai tendance un peu à mettre tout le monde sur le même étage. Alors, du coup, c'est sûr que c'est plus difficile pour beaucoup d'éleveurs. Hein, un animal d'élevage, c'est un animal d'élevage. Oui, c'est sûr, mais... N'empêche qu'on s'y attache quand même beaucoup. Et puis, bah, ça se voit d'ailleurs. Hein. Dès que je les appelle, moi, elles me suivent partout. Il y a un lien quand même qui se crée.
Comment, du coup, tu prends soin de tes chèvres en sachant que vous n'avez pas le même mode de communication?
J'essaye quand même de les comprendre, même si on n'a pas la même communication. Je trouve que c'est assez facile de communiquer avec... Je trouve ça beaucoup plus facile de communiquer avec des animaux qu'avec les humains. Enfin, certains humains, en tout cas. Je trouve qu'en fait, leurs besoins ou leurs... sont assez simples finalement. Enfin, ils ont besoin de manger, de se reposer, qu'on leur prête de l'attention. Enfin, voilà, sans... Il n'y a pas de sentiments comme les humains, donc il n'y a pas de tous ces trucs de jalousie, d'égoïsme qu'on peut retrouver chez nous et qui compliquent les relations. L'animal, en fait, il est assez simple. C'est des besoins primaires et... Ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux. Alors, peut-être qu'on devrait peut-être se rapprocher de ça, je ne sais pas. C'est une idée, je ne suis pas sûre, mais pourquoi pas.
Tu parviens à interpréter des signes, des comportements. Alors, tu nous expliquais tout à l'heure, là, dans la chèvrerie, que le fait aussi d'être proche de tes chèvres, ça fait que tu sais aussi interpréter, bah, par exemple, une qui est super...
Oui, ça, c'est sûr. Hein. Ça, tu vois tout de suite. Hein, quand tu rentres dans un enclos et que celle qui est tout le temps derrière toi n'est pas là, forcément, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Bon, après, je pense que ça, c'est aussi un travail d'éleveur. Hein, donc, je ne dis pas que je suis une bonne éleveuse. Hein, loin de là, pour l'instant, je suis encore en plein apprentissage, mais il y a quand même des signes. Oui, quand tu connais bien tes animaux, tu sais comment ils se tiennent, tu vois comment ils marchent, tu vois tout. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps à observer. Alors aussi, peut-être parce que j'ai un petit troupeau, donc c'est plus facile. La première fois que tu vas aider une chèvre, tu dis, je sais pas si j'y arriverai. Puis en fait, ton animal, tu vois qu'il souffre, que ça va pas. Donc en fait, tu te poses pas la question, tu y vas. Et puis finalement, tout devient naturel. T'as envie de l'aider parce qu'il a mal. Et du coup, bah, elle sent que tu l'aides. Alors du coup, voilà. Enfin, je pense que ça fait aussi partie du boulot. Et puis c'est des super moments. Enfin, moment des naissances, moi, c'est mon moment préféré de l'année.
Est-ce qu'il y a des dynamiques en fait de troupeau comme on peut retrouver par exemple chez dans les meutes de loups par exemple?
Ah oui, bah les chèvres, c'est un des... Je trouve que dans l'élevage, c'est l'animal qui est resté le plus sauvage. Du coup, il y a encore plein de... Tout ce truc de hiérarchie, bon, qu'on retrouve aussi ailleurs, mais moi, je pense, en plus, moi, j'ai décidé de garder les cornes. Donc, du coup, ça... Je pense que ça amplifie. Donc, c'est sûr qu'elles se battent régulièrement. Hein. C'est hyper belliqueux pour tout ce truc de hiérarchie à respecter. Après, moi, je n'ai jamais de problème hein, jusqu'à maintenant. Je touche du bois derrière. Mais je pense que si elles ont largement assez de place, en fait, elles ne se font pas tant de mal parce qu'il faut qu'elles puissent s'échapper. Je pense que c'est mieux de... Voilà, c'est pour ça que d'enlever les cornes et puis de... Je trouve que tout se passe bien. Même si deux chefs se battent, t'as beau rentrer, des fois t'es obligé d'intervenir parce que tu sens que ça monte crescendo, mais en fait tu peux rien arrêter. Enfin, c'est leurs histoires d'animaux, faut pas s'en mêler. Et cette année, j'ai une chèvre qui a une patte cassée, et donc là, oui, pour faire un plâtre et tout ça, j'y suis allée. Bien que plusieurs éleveurs m'avaient dit que du coup, il faudrait la tuer parce qu'elle avait une patte cassée. Voilà. Donc non, on lui a fait un petit plâtre. On lui a pas fait de dessin parce que dans la ferme ça salit trop vite, mais là elle gambade, elle est en face, on les voit d'ici d'ailleurs. Oui. Elles sont là-bas.
Combien d'années a vie une chèvre de sa belle vie?
Eh bien, si elle ne fait pas de petits, si elle ne fait pas de lait, qu'elle ne produit rien, je pense que ça peut aller jusqu'à 15 ans. Ouais, 15-20 ans, maxi, grand maximum. Mais dans un élevage, bah moi j'ai la plus vieille, c'est Neige. Elle a Neige et Nouba, et elles vont avoir 9 ans. Neige est hyper en forme. Nouba commence à montrer des signes de fatigue. Mais Neige, bon, on voit qu'elle a parfois du mal à marcher, mais elle castagne encore bien les petites pour leur montrer qu'elle était là avant, donc c'est que ça va.
Et justement, quand elles deviennent vieilles, tu la réformes?
Pour l'instant, ça ne m'est encore pas arrivé. Vu que c'est que la deuxième année, je les ai gardées. Et puis pour l'instant, pour les premières années, je vais avoir plus de terrain qu'il ne m'en faudra à les voivre. Donc je pense que je vais garder. En plus, c'est mes premières chèvres, alors je n'ai pas envie de m'en séparer.
Comment tu... Parce que du coup, tes chèvres, elles sont forcément impactées par le changement climatique. Comment tu t'envisages de faire face à ça
Bah, je pense qu'il va falloir aussi arrêter de défricher puis d'enlever les arbres, hein, parce qu'on voit encore ici, même dans notre commune, là, on a vu il n'y a pas longtemps des hectares encore de forêts qui sont abattus. Voilà, mais c'est pareil, hein, on voit dans la plaine ici, en plus, c'est hyper céréalier, alors ils défoncent tout et puis ils laissent plus rien. Mais tant qu'ils ne comprendront pas qu'en fait, les arbres, c'est ce qui nous fera tenir, je pense qu'ils ne comprennent pas grand-chose en même temps. La communication doit être arrêtée avec ces gens-là. Oui. Mais ouais, je pense qu'il va falloir du coup replanter des arbres pour que les animaux puissent être à l'ombre. Moi, cette année, j'ai récupéré une parcelle géniale dans le creux de la forêt avec plein d'arbres. Et en fait, elles n'ont pas souffert parce qu'elles étaient à l'ombre et elles avaient de quoi manger à l'ombre. Donc je pense que c'est la solution pour le bien-être des animaux. Parce que ça, pour le coup, les chèvres, en plus, vu qu'elles ont gardé leur instinct sauvage, je ne sais pas si vous avez déjà observé manger dehors, en fait, elles choisissent chaque feuille. Si tu as, par exemple, une pétale, enfin 10 pétales, elles vont peut-être en prendre qu'une ou deux. Elles sont hyper sélectives. Et elles s'auto-médicamentent hyper bien. Et j'ai jamais eu des chèvres aussi belles, d'ailleurs, que cette année, parce qu'il y avait une partie forêt. Donc, elles se sont auto-médicamentées toute l'année. Et du coup, elles étaient magnifiques.
Et au niveau, du coup, justement, du soutien, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu aurais besoin de plus de soutien ?
Non, je pense que je suis assez soutenue. Ce dont j'aurais besoin, c'est que les mentalités évoluent, surtout. Ça, c'est ce qui m'aiderait, parce que c'est ce qui revient souvent quand j'ai un coup de mou. En fait, c'est le regard des gens, les mentalités, les cancans, voilà, des choses comme ça. Du sexisme en permanence. Ça, je pense que ça me ferait du bien, que les mentalités évoluent.
Puisque la radio ne vous donne pas le goût de ces produits, retrouvez Chloé au marché de l'Airain le mercredi matin et à celui de Charmois l'Orgueilleux le samedi matin. Elle vend également ses produits à la ferme aquaponique de l'abbaye et a intégré cette année le collectif Les Bio du Coin, un collectif de 11 producteurs et productrices, artisans et artisanes qui se sont associés pour ouvrir des points de vente dans les Vosges, à retrouver sur leur site internet. Belle journée ou soirée sur Radio Guémozo.